الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala la récitation et la lecture de Sourate Al-Mumtahana. Nous nous sommes arrêtés hier au verset numéro 6 de la Sourate.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, du verset numéro 7 au dernier verset de Sourate Al-Mumtahana qui est le verset numéro 13, dans le verset 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Il se peut qu'Allah établisse de l'affection entre vous et ceux d'entre eux que vous avez pris pour ennemis. Allah est capable de toutes choses. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Ici, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle que l'animosité et l'inimitié qu'il y a entre les croyants et les mécréants, dont il a ordonné aux croyants de faire preuve à l'égard des associâtres et des polythéistes, doit durer tant que ces derniers persistent dans leur mécréance et dans leur associatrie et leur polythéisme. Par contre, s'ils deviennent croyants, la cause de cette inimitié et de ce désaveu disparaîtra et l'amour et l'amitié de la foi prendra le relais. Aussi, ne désespérez pas, ô vous les croyants, de voir les mécréants, les associâtres et les polythéistes revenir à la foi. Car comme Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets que l'on a récités, il se peut qu'un jour Allah établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Et la cause de cette entente cordiale est le retour de ses associâtres à la foi. Allah est capable de toutes choses. Il est omnipotent. Et il est capable de faire ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, entre autres la guider des cœurs et leur passage d'un état à un autre est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et Allah est pardonneur et miséricordieux, c'est-à-dire il n'y a pas de péché, si grand soit-il, si grand soit-il, même le polythéisme, même l'associatrie, dont la personne ne s'en repent sincèrement, sans que Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte son repentir, ne le pardonne, et malgré les plus grands défauts qu'un être humain puisse avoir, Allah tabaraka wa ta'ala est prêt à accepter son repentir et son retour. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez surchargé vos âmes de péché, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah absout tous les péchés dans leur totalité, car il est le pardonneur et le miséricordieux, le compatissant. Il y a dans ce verset une indication et une bonne annonce de la conversion de certains polythéistes qui étaient à cette époque-là les ennemis des croyants. On parle du verset numéro 7. C'est-à-dire dans ce verset numéro 7 de Sourate Al-Mumtahana, il y a une annonce que les associâtres, les polythéistes qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants allaient se convertir à l'islam. Et ce bienfait s'est confirmé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ces nobles versets incitant à l'inimitié contre les polythéistes et les associâtres furent révélés, ils eurent un très grand effet sur les croyants qui désavouèrent certains de leurs parents, associâtres et polythéistes, et qui coupèrent tout lien avec eux, en croyant que cela faisait partie de l'interdiction divine. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les informa que cela n'est pas concerné par l'interdiction, en disant dans le sens, dans le verset numéro 8, « Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu en raison de votre foi et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les justes. » Dans le verset 9, « Allah vous interdit uniquement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu en raison de votre foi, qui vous ont chassé de vos demeures ou qui ont aidé à votre expulsion. Ceux qui les prennent pour alliés sont les transgresseurs. » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit de faire preuve de bonté, de piété filiale, de bienveillance et d'équité envers les associâtres, les mécréants, les polythéistes parmi vos proches et les autres que les proches aussi, là où ils se trouvent, à condition qu'ils ne vous combattent pas pour votre religion et ne vous expulse pas de vos demeures. Il ne vous sera fait aucun reproche si vous leur témoignez de la piété filiale. Car dans une circonstance pareille, leur témoigner de la bienveillance n'a rien d'illicite ni de nuisible. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit au sujet des parents associâtres, mécréants, polythéistes, dont le fils est croyant et musulman.
Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
Et s'ils font tous les efforts pour te pousser à me donner des associés dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais tiens-leur bonne compagnie en ce bas monde. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit donc dans le verset, dans la suite du verset de Sourate Al-Mumtahana, dans le sens, mais il vous interdit toute liaison avec ceux qui vous combattent à cause de votre religion, c'est-à-dire ceux qui vous témoignent de l'animosité à cause de votre religion, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de ceux qui se conforment à elle, et qui vous chassent de vos foyers, ou bien qui aident, qui contribuent, qui assistent les autres à le faire. Allah vous défend de concrétiser une telle alliance par l'amitié, l'alliance, l'entraide, que ce soit avec la parole ou les actes. Par contre, la bonté et la bienveillance qui n'amènent pas à une alliance avec les mécréants et les polythéistes, Allah ne vous les défend pas, car cela entre dans l'ordre global de la bienveillance envers les proches et de la bienveillance envers tous les autres êtres humains. Puis Allah Ta'ala a dit, dans le sens de ce 9e verset, à la fin, « Ceux qui concrétisent une telle alliance sont eux les vrais injustes. » Cette injustice dont Allah Tabaraka wa Ta'ala parle ici, elle est jugée en fonction du degré de l'alliance. Si la personne a une alliance absolue avec les mécréants, avec les associâtres, avec les polythéistes, alors cette injustice sera assimilée à de la mécréance majeure qui le fera sortir du cercle de l'islam, du cadre de l'islam. Et si l'alliance est en deçà de cela, alors il y a des degrés plus ou moins graves à cette alliance. Puis dans le verset 10 et 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, « Ô vous qui croyez, lorsque les croyantes émigrent vers vous, mettez-les à l'épreuve, même si seul Allah connaît la sincérité de leur foi. Si vous avez la conviction qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne leur sont pas licites, et eux non plus ne leur sont pas licites. Restituez à leurs anciens maris mécréants ce qu'ils ont dépensé comme dot pour les épouser. Vous ne commettez aucun péché à les épouser dès lors que vous avez versé à ces femmes leur dot. Ne gardez pas des liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé pour les femmes qui rejoignent les mécréants et que les mécréants réclament ce qu'ils ont dépensé pour les femmes qui vous rejoignent. Tel est le jugement d'Allah qu'il établit entre vous. Allah est omniscient et sage. Dans le verset 11, si certaines de vos épouses fuient vers les mécréants, qui refusent de vous restituer les dots accordées, et qu'ensuite vous obtenez un butin, donnez à ceux dont les épouses sont parties une part du butin égale à ce qu'ils ont dépensé pour leurs épouses. Craignez Allah en qui vous croyez. Dans ces deux versets, Allah tabaraka wa ta'ala parle de certaines règles liées aux femmes et aux hommes dans leurs relations conjugales, qu'ils soient croyants, c'est-à-dire musulmans, parce que quand on dit croyant, ça ne veut pas dire autre chose que musulman. Il y a des gens qui disent « cette personne, il est croyant ». Ah bon, il est quoi? Il est chrétien. Non, un chrétien, c'est un mécréant, il n'est pas croyant. Il croit dans la mécréance, car la religion chrétienne est de la mécréance, ce n'est pas de la croyance. Dire qu'Allah a un fils, c'est de la mécréance. Adorer les saints, c'est de la mécréance. Changer les versets d'Allah, les versets révélés dans l'évangile, et suivre ses passions
en prenant des associés en dehors d'Allah, en refusant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, en disant que Allah a eu un fils, c'est de la mécréance. Donc on ne dit pas d'un chrétien il est croyant, ni même d'un juif. Un croyant, c'est un musulman. Donc, ici Allah tabaraka wa ta'ala parle de certaines règles liées entre les croyants et les mécréants dans les relations conjugales. Dans le mariage, dans le fait que si un des deux époux entre en islam et l'autre non, si un des deux époux quitte l'islam, devient apostat et l'autre non, et ainsi de suite. Lors du traité de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam signa un pacte avec les polythéistes, stipulant entre autres que quiconque parmi eux arrive chez les musulmans en tant que musulman, il doit être extradé chez les polythéistes. Cette clause avait un sens général pouvant concerner aussi bien les hommes que les femmes. Pour ce qui est des hommes, Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas interdit à son messager sallallahu alayhi wa sallam de les rendre aux polythéistes par respect de la clause et du traité de paix qui constitue un grand avantage en réalité pour l'islam et les musulmans. Car c'était une époque de paix où l'islam a pu beaucoup se répandre. Et ceci est une preuve que parfois, le dirigeant musulman, il peut faire certains sacrifices pour l'intérêt du prêche, de la da'wah. Car la da'wah, l'appel à l'islam, est prioritaire. L'appel à l'islam a besoin d'un climat de paix. Les gens, quand ils sont en guerre, quand ils ont peur pour leur vie, ils ne sont pas disposés à écouter l'appel à l'islam et y réfléchir, à tête reposée, à accepter de plein gré. Donc, cette période où il y a eu le pacte de l'Hudaybiyah, ça a été une période où il y a eu beaucoup de tribus arabes qui sont entrées en islam. Ce traité, même s'il y avait des clauses en désavantage des musulmans, il y avait un grand bien derrière. Cette clause en particulier ici, au désavantage des musulmans, c'est que si un homme se convertissait à l'islam parmi les Quraysh, ou les habitants de la Mecque plutôt, même si ce n'est pas un Quraychite, et qu'il fuyait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans l'obligation de leur rendre cet homme-là. Et dans la clause, il n'était pas spécifié homme ou femme, mais c'était une clause de manière générale. Donc pour les hommes, Allah tabaraka wa ta'ala a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de respecter cette clause. Par contre, concernant les femmes, dans la mesure où leur extradition impliquait de nombreux préjudices, Allah avait ordonné aux croyants, lorsque des croyantes venaient à eux, en émigrantes, et qu'ils avaient des doutes sur la sincérité de leur foi, de les mettre à l'épreuve pour sonder leur foi et ses implications. En effet, il se peut que certaines d'entre elles ne soient pas sincères dans leur foi, et que leur venue ne soit motivée que par le désir d'épouser un homme, de s'installer dans un autre pays, ou par désir d'obtenir un des biens de ce bas monde. Auquel cas, ces femmes-là doivent être extradées par respect de la clause et sans provocation d'un préjudice. Mais s'ils les mettent à l'épreuve et voient qu'elles sont sincères dans leur démarche, ou s'ils apprennent cela d'elles sans les mettre à l'épreuve, alors ils n'ont pas le droit et ils ne doivent pas les extrader vers les mécréants. Car Allah a dit dans le Coran, car désormais, elles ne sont plus licites pour eux, ni eux pour elles. C'est-à-dire que leur extradition est de nature à susciter un grand préjudice que le législateur a pris en considération. Il a pris aussi en considération le respect de la clause en restituant aux mécréants les dots qu'ils ont versées à ces femmes pour compenser ceux qu'ils ont remboursés à leur profit. Ce faisant, il n'y a aucun inconvénient pour les musulmans dans le fait de les épouser, même si elles ont des époux dans le pays du polythéisme, à condition qu'ils leur donnent leur dot et qu'ils subviennent à leurs besoins. Donc une femme qui devient musulmane, qui était avec un mari mécréant et qui a fui vers les musulmans, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne devait pas la retourner. Par contre, en compensation, il remboursait au mari mécréant la dot, et de ce fait, le mariage était caduque. De toute façon, à partir du moment où elle est devenue musulmane, elle lui est interdite. Et une fois que la période de viduité est passée, alors elle peut se marier avec qui elle souhaite parmi les musulmans, à condition que celui-ci lui donne aussi sa dot et qu'il respecte toutes les conditions du mariage, bien sûr. On voit ici, et ceci en réponse à ceux qui disent qu'il n'y a aucun verset qui dit que la femme ne peut pas se marier avec un mécréant. Ce verset est clair, car désormais elles ne sont plus licites pour eux, ni eux pour elles. Aussi Allah tabarak wa ta'ala dans sourate al-Baqarah dit وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبَدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ. Dans sourate al-Baqarah, Allah Ta'ala dit dans le sens « N'épousez pas les femmes associâtres jusqu'à ce qu'elles croient. » Et certes, et une femme esclave musulmane est meilleure qu'une associâtre, même si cette associâtre vous plaît. Et ne donnez pas en épouse les femmes musulmanes aux hommes associâtres. Car un homme croyant est meilleur qu'un homme associâtre, même si celui-ci vous plaît, même si ce dernier vous plaît. Car tout cela appelle au feu de l'enfer et Allah vous appelle au paradis et à un pardon de sa part. Ou une absolution de sa part, dans le sens de sa parole. Donc, les versets qui interdisent à une musulmane d'être avec un mécréant sont clairs. Que ce mécréant soit polythéiste, qu'il soit athée, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit hindou, qu'il soit associâtre, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, peu importe, même qu'il se prétend musulman, mais que c'est un apostat, comme les gens qui adorent les tombes et autres, toute personne qui n'est pas un musulman monothéiste, il est interdit pour une femme musulmane. De même que la femme musulmane n'est pas licite pour le mécréant, l'inverse est vrai aussi pour le musulman, qui ne peut pas épouser une mécréante tant qu'elle reste attachée à sa mécréance. Et l'exception, je vais en parler après. Vous allez dire, oui, mais il y a une exception. Je la laisse pour après. Donc, à la base, et les hommes et les femmes musulmanes ne peuvent épouser que des musulmanes chastes. Et des musulmans chastes. Chastes. Car Allah a interdit le mariage avec le fornicateur et la fornicatrice. Et il l'a considéré invalide. Et il a considéré qu'un fornicateur ou une fornicatrice, il ne peut être qu'avec quelqu'un comme lui, ou un polythéiste, ou un associâtre. C'est-à-dire il ne convient pas à un croyant. Que veut dire cela? Cela veut dire que toute personne, qu'il soit musulman ou non, qui fornique, c'est-à-dire qui a des relations hors mariage, alors on ne peut pas le marier, qu'il soit un homme ou une femme. Et si on se marie, ce mariage est invalide. De même, deux personnes qui se fréquentaient hors mariage et qui ont eu des rapports conjugaux sexuels entre eux hors mariage et qui se marient, leur mariage est invalide. Sauf s'ils se repentent et qu'ils s'éloignent l'un de l'autre et qu'ils laissent une période dont les savants ont divergé, est-ce que c'est trois périodes de menstrues ou une période de menstrues, qui laissent cette période où ils ne se fréquentent pas, ils ne se touchent pas, ils n'ont pas de rapport dans le haram, après s'être repentis. Et après cela, ils peuvent se marier comme deux étrangers qui se marient, avec un tuteur, avec les règles, avec les conditions, avec la dot, etc. Comme ça, c'est possible. Et si la femme est enceinte du haram, c'est-à-dire d'une relation hors mariage, alors le mariage avec elle sera impossible et invalide jusqu'à ce qu'elle accouche. Car beaucoup se côtoient dans le haram. Quand la femme est enceinte, pour cacher leur péché, ils se marient. Et là, on reçoit plein de messages. Comment je vais faire? En fait, ils n'ont pas eu peur d'Allah quand ils forniquaient. Maintenant, ils ont peur parce qu'elle est enceinte. C'est ça. Forniquer, ça leur a pas fait peur. Maintenant que la personne elle est enceinte, là, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'elle est enceinte. Comment je vais faire? Je suis enceinte. Et si vous aviez continué à forniquer sans être enceinte, jamais vous m'auriez contacté alors. Vous auriez continué à forniquer. Est-ce que je peux avorter? Est-ce que je peux faire ci? Donc le souci n'est pas est-ce que Allah va me pardonner. Le souci est juste comment se débarrasser de ce problème. Donc là, on a parlé du cas du fornicateur et de la fornicatrice. Ils ne peuvent se marier qu'après un repentir et qu'après un délai de viduité. Par les menstrues, une menstrue, si elle n'est pas enceinte, et jusqu'à ce qu'elle accouche, si elle est enceinte, et si elle accouche de cet enfant ne portera pas le nom de l'homme. Il n'est pas son père. Il portera le nom de la femme. C'est un enfant du haram. Et il n'héritera pas du père. C'est pas son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « El waladu lil firash wa lil ahiri al hajar » Le seul enfant légitime est celui qui naît d'un lit légitime alors que le fornicateur n'aura que des pierres. C'est-à-dire, il n'a pas le droit d'avoir une filiation, le fornicateur. Il ne peut pas s'approprier un enfant. Maintenant, le cas du mariage avec les mécréants, sans forniquer. Ce que aujourd'hui, qui m'étonne beaucoup, que soi-disant un musulman, il veut se marier avec une femme des gens du livre, il ne l'a pas fréquentée, bien sûr. Et une femme des gens du livre, hein, une femme chaste des gens du livre, elle sort tout juste du couvent, là. Après, on vient me dire, c'est une femme des gens du livre. Elle n'est même pas chrétienne, elle n'est rien du tout. Elle croit en rien. Elle croit juste aux passions qu'elle suit toute sa journée. Et après, elle dit, c'est une femme des gens du livre, je vais me marier avec elle. Ni elle est chaste, ni c'est une femme des gens du livre. Et vous vous êtes fréquenté dans le haram. Comment vous voulez vous marier? Votre mariage, il est invalide. Même si 1000 imams, ils viennent vous réciter tout le Coran ou faire toutes les bid'a qui existent, toutes les innovations qui existent. Ils ne peuvent pas rendre halal ce qu'Allah a rendu haram. Ils ne peuvent pas rendre valide ce qu'Allah a rendu invalide. C'est impossible. C'est comme si quelqu'un venait dire Bismillah sur un porc. Ça ne changerait rien à la nature du porc. Il est illicite. Donc, on revient à ces versets. À la base, le croyant musulman ne se marie qu'avec une croyante musulmane. Je dis musulmane, j'ai pas besoin de répéter. Croyant, ça veut dire musulman. Et en plus, même dans la musulmane, il choisit la meilleure. Comme la femme, même dans le musulman, elle ne va pas prendre un pervers. Elle va prendre un homme pieux. Elle va chercher quelqu'un qui lui correspond, qui lui convient. Concernant le mariage avec les femmes des gens du livre, qu'Allah a autorisé, avec des conditions. Quelle est cette condition? La première condition, elle est chaste. C'est-à-dire, c'est une femme qui ne fréquente pas hors mariage. Montrez-moi cette femme des gens du livre en France qui ne fréquente pas hors mariage. Montrez-la moi si elle existe. Deuxièmement, c'est vraiment une femme des gens du livre. C'est-à-dire, c'est une chrétienne. Elle croit à la chrétienté, elle suit sa religion, ou une juive. Mais ces deux conditions seules, ce sont deux conditions générales. Mais dans le cas où on vit dans un pays mécréant, il y a d'autres conditions à ajouter à cela. Effectivement, les savants considèrent qu'il est interdit à un musulman de se marier avec une juive ou une chrétienne quand il vit en terre de mécréance. Pourquoi cela? Premièrement, car s'il fait cela, il va y avoir de moins en moins d'hommes pour se marier avec les musulmanes. Et les musulmanes, elles ne peuvent pas se marier avec les hommes des gens du livre. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il va se marier avec une femme des gens du livre en terre de mécréance, elle va faire ce qu'elle veut. Elle va s'habiller mal, elle ne va pas lui obéir, elle va appeler ses enfants à la mécréance, il ne pourra rien faire, car toutes les lois sont contre lui. Parce que même quand un homme il se marie, par exemple, dans un pays musulman avec une femme chrétienne, elle doit suivre certaines règles. Elle doit se couvrir. Elle doit faire respecter l'honneur de son mari. Elle ne doit pas faire tout ce qu'elle veut comme elle veut. Elle doit obéissance à son mari. Alors comment un homme musulman en France, il peut faire respecter ça à une femme chrétienne ou juive? C'est impossible. Elle va sortir déshabillée, il ne pourra rien lui dire. Elle va aller fréquenter d'autres hommes, il ne pourra rien lui dire. Donc, en prenant en considération tous ces points-là, et qu'à la base, c'est interdit de se marier avec une mécréante, quelle qu'elle soit, cette exception est venue pour une raison précise. C'est une exception avec des conditions. Mais même dans un pays musulman, est-ce que le musulman, il va faire le choix d'aller se marier avec une chrétienne alors qu'il y a des musulmanes? Malheureusement, subhanallah, je reçois beaucoup, beaucoup de questions actuellement de frères qui ne craignent pas Allah, qui veulent absolument aller se mettre avec des non-musulmanes. Soi-disant, elles sont chrétiennes. Où sont les chrétiennes? Ils insultent la chrétienté du matin au soir en France. Ils se sont désavoués de la chrétienté depuis des siècles. Ils vénèrent leur passion et la laïcité. Leur dieu, c'est la Marianne. Ils n'ont plus aucun lien avec la chrétienté. Les chrétiens en France, ils sont une minorité. Eux-mêmes, ils te le disent. Je crois en Dieu. T'as une religion? Non, je ne sais pas. Je crois juste qu'il y a un Dieu. Ça, c'est quoi? C'est pas un chrétien, ça? Sans compter ceux qui disent « Je suis athée. Je crois en rien. » Donc, barakallahu fikum. Craignez Allah, mes frères. Cherchez une femme musulmane pieuse qui sera la mère de vos enfants. Plutôt que cette femme mécréante qui va élever vos enfants sur la mécréance. Ou soi-disant, on va lui donner le choix quand il sera grand. Quand il est grand, c'est fini. L'éducation, elle se passe quand il est petit. Quand il est grand, ça y est, si l'arbre il est pourri, il est pourri. Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut le guider. Comme beaucoup, alhamdulillah, qui ont accepté l'islam après qu'ils étaient grands. Mais pourquoi prendre ce risque? Pourquoi répondre de cette responsabilité devant Allah? C'est pour ça Allah ta'ala a dit dans ce verset, dans le sens, ne restez pas unis à des femmes non croyantes, mais exigez d'elles le remboursement de la dot. Ça, c'est la règle concernant la personne qui est mariée avec une musulmane et qu'elle apostasie. Qu'Allah nous en préserve. Alors, dans ce cas-là, puisqu'elle retourne chez les mécréants, il est en droit de lui demander la dot, qu'elle rembourse. De même, quand une femme qui était mariée avec un mécréant, elle fuit chez les musulmans, elle rentre en islam, alors on lui rembourse la dot qu'il a payée, ce mécréant. Enfin, maintenant, je ne sais pas si les mécréants, ils donnent des dots. Mais à l'époque, les polythéistes, ils donnaient des dots. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a jugé dans cette question, et c'est Allah l'omniscient et le sage. Et Allah ta'ala a dit après dans l'autre verset dans le sens, si l'une de vos femmes passe du côté des infidèles, abjurant sa foi, et que vous preniez votre revanche sur ces derniers, remboursez sur le butin aux maris que leurs femmes auront abandonné le montant des sommes qu'ils ont dépensées pour les épouser. C'est-à-dire, si à l'époque un musulman était avec une musulmane, et qu'elle apostasie, qu'elle retourne chez les mécréants, et que les mécréants n'ont pas voulu lui rembourser sa dot, alors quand les musulmans gagnent des butins, ils vont prendre sur le butin une part pour rembourser cette personne, avant de partager le butin. Puis dans les deux derniers versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens, « Ô prophète, lorsque les croyantes viennent te prêter serment, qu'elles n'associeront rien à Allah, et qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à la fornication, qu'elles ne tueront pas leurs enfants, qu'elles n'attribueront pas faussement d'enfants à leur mari, et qu'elles ne te désobéiront pas dans le bien que tu leur ordonnes, alors accepte leur serment et implore pour elles le pardon d'Allah. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui désespèrent de l'au-delà, comme les mécréants désespèrent des hôtes des tombes, des habitants des tombes. Les conditions contenues dans ces nobles versets forment le serment d'allégeance des femmes. Celles-ci prêtaient serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appliquer ses obligations communes aux hommes et aux femmes en toutes circonstances. Pour ce qui est des hommes, les obligations qui les concernent diffèrent en fonction de leur situation et de leur degré, ainsi que de ce qu'ils sont tenus de faire. C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application tout ce qu'Allah lui ordonnait. Lorsque des femmes venaient lui prêter serment d'allégeance et qu'elles s'engageaient à appliquer ses dispositions, il acceptait leur serment, demandait pardon à Allah en leur faveur pour les négligences pouvant émaner d'elles, puis il les faisait entrer dans le giron des musulmans. Elles se sont engagées à ne pas donner d'associés à Allah, en consacrant leur adoration à Allah seul, à ne pas commettre la fornication, comme cela était courant chez les prostituées et les filles de joie, ni d'infanticide, comme faisaient les femmes de la Jahiliya de l'époque anté-islamique, en enterrant leurs filles vivantes, et à ne pas attribuer à leur mari d'enfants illégitimes, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas mentir à leurs époux en leur attribuant des enfants qui ne sont pas les leurs. De même qu'elles ne doivent pas le faire avec d'autres, et à ne pas te désobéir en ce qui est réputé convenable, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas te désobéir dans tout ce que tu leur ordonnes, car tes ordres ne peuvent qu'être de l'ordre du convenable, notamment lorsque tu leur interdis les lamentations, la déchirure des vêtements, la lacération des visages et les invocations et les innovations de l'Jahiliya, de l'époque anti-islamique. Alors accepte leur engagement, leur pacte, leur serment, une fois qu'elles ont accepté toutes ces conditions, et implore le pardon d'Allah en leur faveur pour leur négligence et pour les consoler. Car Allah est plein d'indulgence, plein de pardon pour les désobéissants et de bienveillance pour les pécheurs repentants et plein de miséricorde, subhanahu wa ta'ala, dont la miséricorde embrasse toutes choses et dont la bienveillance englobe l'univers entier. Puis dans le dernier verset, Allah ta'ala dit, répète cet ordre, ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, évitez de vous allier, ne vous alliez pas à ceux qui ont encouru la colère d'Allah et qui désespèrent de la vie future au même titre que les infidèles qui désespèrent de voir revenir à la vie ceux qui sont dans les sépultures. C'est-à-dire, ô vous les croyants, si vous croyez en votre Seigneur, si vous recherchiez sa satisfaction et évitiez son courroux, évitez alors de vous allier aux mécréants qui ont encouru la colère d'Allah à cause de leur mécréance. Cela est valable pour toutes les catégories de mécréants, que ce soit des polythéistes, des athées, des hindous, des bouddhistes, des chrétiens, des juifs, des apostats, peu importe. Et qui désespèrent de la vie future, c'est-à-dire qui sont privés du bien dans l'au-delà, dont ils n'auront aucune part. Aussi, prenez garde de vous allier à eux en vous conformant à leurs mécréances et leurs méfaits, et partant d'être privés du bien de l'au-delà comme ils en sont privés. Dans sa parole, dans le sens, au même titre que les infidèles qui désespèrent de voir revenir à la vie ceux qui sont dans les sépultures, c'est-à-dire dans les tombes, lorsqu'ils se retrouveront dans l'au-delà et qu'ils verront les choses dans leur réalité, en arrivant à la certitude qu'ils n'auront aucune part de la félicité dans l'au-delà, il se peut aussi que le sens de ce verset signifie qu'ils n'ont pas cru en l'au-delà et l'ont nié. Nul doute donc qu'ils s'exposent à la colère et au courroux d'Allah et aux implications de son châtiment. Leur désespoir d'obtenir la félicité dans l'au-delà est pareil au désespoir des mécréants qui nient la résurrection des morts et leur retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Avec ceci, nous avons fini la traduction rapprochée, des sens rapprochés du Coran et l'explication de Surat Al-Mumtahana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.